Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Un rendez-vous pour bifurquer ensemble ce samedi. De jeunes diplômés de la prestigieuse école d'ingénieurs AgroParisTech appellent à se retrouver devant, je cite, la mairie de la ville la plus proche. C'est ce qu'écrit leur collectif. Objectif, eh bien poursuivre la mobilisation après l'énorme buzz, il n'y a pas d'autre mot, créé il y a un peu plus d'une semaine par leur plaidoyer. C'était lors de la remise des diplômes, plaidoyer pour appeler justement, comme ils le disent, à bifurquer, à déserter l'agro-industrie pour ne pas participer, affirme-t-il, aux ravages sociaux et écologiques causés en partie par cette filière selon eux. Alors ce type de prise de position n'est pas nouveau, mais de plus en plus de futurs professionnels appellent à se saisir de la question climatique et à s'investir dans des emplois qui sont écologiquement utiles. Jusqu'où ira ce mouvement? C'est la question que nous posons ce soir. Est-ce que c'est une simple crise de conscience passagère ou sommes-nous à l'aube d'un tournant économique orchestré par ces jeunes appelés à devenir les dirigeants de demain? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, d'abord à mes côtés en studio, Sandra Wabian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Face à vous, Baptiste Aizeleux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du collectif pour un réveil écologique. On va en parler, hein. C'est un collectif qui existe depuis 2008, collectif étudiant de grandes écoles, né d'une tribune signée par 30 000 étudiants de grandes écoles. Et vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure des mines d'Albi et vous travaillez aujourd'hui comme consultant dans un cabinet de développement durable. Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir Emmanuel Adam.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de l'entreprise Carbios qui propose des technologies biologiques pour la fin de vie des plastiques et des textiles. Et votre entreprise adhère au French Business Climate Pledge qui a été créé en 2015, qui est porté par le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, et qui entend agir en faveur du climat. Alors avec vous, on va pouvoir confronter l'appel des étudiants qu'on évoque et ce que peuvent faire aujourd'hui les entreprises en faveur justement de cette transition écologique. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour. Pour débuter, je voudrais qu'on écoute un extrait de ce qu'ont pu dire ces étudiants d'AgroParisTech. C'était donc lors de la cérémonie des diplômes dans l'enceinte de la très prestigieuse salle Gaveau à Paris. Écoutez plutôt.
Quelle vie voulons-nous? Un patron cynique? Un salaire qui permet de prendre l'avion? Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon? Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite? Un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocoop? Et puis, un burn-out à 40 ans? Ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo-reconversion dans le même taf, mais repeint en vert. Vous pouvez bifurquer maintenant. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
Voilà, les applaudissements donc de la salle Gaveau pour ces étudiants de l'école AgroParisTech. Sandra Wabian, que vous inspire cette prise de position?
Alors, vous disiez que ce n'était pas nouveau. Moi, je trouve qu'il y a quand même une nouveauté, qui est que ce sont des étudiants qui sont insérés, en fait, qui font partie des parcours les plus prestigieux et qui, d'une certaine manière, remettent en cause complètement la filière dans laquelle ils étaient appelés à travailler.
Ils ne sont pas les premiers à le faire? Il y a non. eu les étudiants de l'école normale supérieure, par exemple, au mois de mai.
C'est vrai, mais ce qui est aussi nouveau, c'est l'ampleur que prend ce mouvement. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de Français qui sont conscients ou inquiets des questions écologiques et que c'est encore plus présent chez les jeunes. Et aussi parce que ça rentre dans un regard aussi sur la vie, sur les équilibres entre le travail, les loisirs. On l'entend dans la prise de parole que vous avez passée. C'est pas seulement une question de rapport à l'environnement, c'est aussi plus globalement un sens qu'on va donner à la vie et qui donc aujourd'hui n'est pas la cerise sur le gâteau, mais qui est vraiment l'élément principal en fait des choix. Donc on est quand même dans un moment de changement avec beaucoup d'exigences vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des pouvoirs publics, et une forme aussi de d'urgence qui est ressentie par cette génération.
Il y a un mouvement en marche, Baptiste Aizeleux. Alors c'est quand même nouveau, nous disait Sandra Wabian. Vous, votre collectif pour un réveil écologique est né en 2018.
C'est ça.
Mais c'est un mouvement qui ne cesse de progresser, vous diriez, cette mobilisation-là?
Oui, je dirais que c'est plutôt ça. Nous, ça avait commencé en 2018 avec plusieurs appels dans différentes écoles, dont Centrale Nantes, où ça avait fait beaucoup de bruit. Et ce mouvement, du coup, a pris de l'ampleur. Et là, on arrive un peu à un phénomène plus important, où aussi, on le voit bien dans leur prise de parole, la radicalité aussi est plus élevée. Et donc, ils remettent vraiment en cause le système. Et enfin, nous, on s'inscrit là-dedans dans le sens où le fait qu'ils remettent en cause le système et qu'ils montrent aussi une alternative, nous, en fait, on s'insère aussi dedans pour essayer de faire changer les choses de l'intérieur, mais pas que. Et donc, ouais, je pense que c'est un mouvement qui prend l'ampleur.
Il faut que cette radicalité soit plus importante pour que le mouvement soit entendu, vous estimez ?
C'est une bonne question. Nous, quand on a lancé le collectif en 2018, on sait que les dirigeants d'entreprises qu'on a pu rencontrer, ils ont aimé la radicalité qu'on a apportée dans nos exigences et dans ce qu'on demandait aux entreprises de vraiment s'aligner, par exemple, sur les accords de Paris et que leur trajectoire soit vraiment alignée avec un monde à plus 1,5 degré. Donc je pense qu'il faut surtout que cette radicalité et que les gens comprennent en fait quelle est l'urgence écologique dans laquelle on se situe et après qu'on y réponde à la hauteur.
Alors, illustration du travail que vous menez, votre collectif a mis en place une campagne d'affichage coup de poing, on peut l'appeler comme ça, hein, actuellement dans le métro parisien, dans plus de 100 stations, des affiches en 4 mètres sur 3, sur lesquelles on peut lire « Ce soir, c'est rapport du GIEC », au lieu de « Ce soir, c'est burger », ou « Le dernier rapport du GIEC sur place », avec un résumé du rapport, ou « À emporter », et là, il y a un QR code. Si on scanne ce QR code, on a accès au dernier rapport des experts du climat, celui qui propose des solutions pour éviter l'impasse climatique. Quel retour vous avez de cette opération coup de poing? Quel retour des usagers?
Un excellent retour. On a eu beaucoup de témoignages de gens qui étaient heureux et même enjoués de voir qu'on pouvait en fait mettre à disposition un espace publicitaire pour le bien commun et sensibiliser le plus grand monde au réchauffement climatique. Et du coup, qui dit réchauffement climatique dit mettre des solutions en place pour atténuer nos émissions. On a eu aussi beaucoup de médias qui aussi étaient intéressés par toutes ces choses. Et en fait, cette campagne, nous, on l'a lancée parce qu'on a remarqué qu'on ne parlait pas assez des enjeux climatiques. On l'a vu au présidentiel, que les enjeux environnementaux étaient vraiment très peu présents. Du coup, on s'est dit, on a fait un montage sur LinkedIn qui a très bien marché. On a discuté avec Média Transport et on a monté cette campagne pour essayer de sortir de notre bulle aussi de gens convaincus et d'essayer de montrer aux gens pourquoi est-ce que c'est une urgence et quelles sont les solutions et allons-y ensemble parce que ce n'est pas une petite partie de la population qui va devoir y aller, c'est tout le monde.
Et vous avez l'impression, les usagers ont le sentiment que c'est une bulle de gens convaincus ou est-ce que vous avez, de par les retours des usagers, ce sentiment que finalement eux aussi s'intéressent à cette cause climatique ou est-ce qu'aujourd'hui c'est une cause qui appartient à la jeunesse?
Alors c'est clairement une cause, comme l'a dit Sandra avant, qui concerne tout le monde et tout le monde est intéressé par ça. Même dans les médias qui nous ont parlé, il y avait des médias qui n'étaient pas forcément spécialisés, on va dire des médias communs ou en tout cas que nous n'avons pas l'habitude d'être cités par ces médias. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait que on a eu des retours de gens de autres que notre génération qui nous ont dit merci beaucoup. Typiquement sur LinkedIn, c'est un peu notre réseau phare. On a eu vraiment beaucoup de gens, des plus de 30 ans, des plus de 40 ans qui disaient merci pour ce travail d'utilité publique. Donc voilà, c'est vraiment un sentiment qui est partagé.
Emmanuel Ladan, vous qui êtes directeur d'entreprise, comment est-ce que vous jugez ce type d'initiative de jeunes qui disent ne plus vouloir travailler dans des entreprises qui font rien dans le sens de la transition écologique?
Moi, je trouve ça très bien, je trouve ça remarquable. Et ce qui vient d'être dit, je le partage complètement. Moi, j'ai la chance de vivre dans une entreprise qui donne énormément de sens, puisqu'on travaille sur la fin de vie des plastiques et sur le fait que malheureusement, chaque année, 9 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans parce qu'on a fait un mauvais travail dans le recyclage, dans la collecte. Et donc, Carbios, qui développe des technologies pour mieux recycler les plastiques, tous les employés de Carbios ont, avant toute chose, cette urgence en tête, l'urgence pour la planète. Et donc, moi, j'ai la chance de travailler pour une entreprise où la moyenne d'âge est jeune. Et tous les gens que je rencontre me disent, on vous a rejoint avant tout parce que votre mission fait du sens. Il y a urgence pour la planète. On veut laisser un monde acceptable à vivre à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc il faut vraiment aller très vite. Et il faut que les entreprises qui innovent dans ces domaines-là puissent être aidées à se développer très, très rapidement.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est révélateur du monde de l'entreprise aujourd'hui, cette mentalité que vous avez aujourd'hui, que vous développez?
Alors, peut-être que la prise de conscience est différente dans certaines entreprises par rapport à d'autres, mais je pense que les générations jeunes, la moyenne d'âge chez Carbios, c'est 37 ans, c'est relativement jeune, et les générations jeunes ne veulent plus attendre, ne veulent plus qu'on leur promette des super résultats en 2050. Ils se disent, mais qu'est-ce que vous faites tout de suite? Comment sera la planète en 2025, en 2030? Et qu'est-ce qu'on peut faire dans les 8 ans qui viennent? Parce qu'il y a urgence à agir. Et moi, dans mon credo, c'est lutter contre la pollution plastique. Et il y a plein d'autres domaines sur lesquels il y a des jeunes entreprises, des pépites qui arrivent sur le marché et qui vont pouvoir créer des emplois qui font du sens. Et encore une fois, je crois que les jeunes générations ne viennent pas au travail comme ma génération. Moi, j'ai 53 ans, hein, où les gens sont plutôt concernés par bien gagner sa vie, avoir un environnement de travail qui soit agréable. Et puis effectivement construire une vie confortable, c'est plus ça la motivation. Les gens cherchent un travail aujourd'hui qui donne du sens et pour lequel ils ont vraiment l'impression non seulement évidemment de gagner leur vie et de subvenir à leurs besoins, mais aussi de donner aussi de faire quelque chose d'utile.
Mais c'est un sentiment majoritaire, ça, vous pensez?
Ah oui, je pense qu'en tout cas chez les moins de 40 ans, c'est extrêmement majoritaire. Et tous les gens que j'ai croisés chez Carbios ou tous les gens que je vois en entretien pour rentrer me disent ça, on vient avant tout parce qu'on a envie de se lever le matin pour quelque chose qui fait du sens pour la planète.
Sandra Ouabian, je vous ai vu faire non de la tête.
Ben, en fait, on peut dire oui si on se place dans un marché, de, comme je disais tout à l'heure, de jeunes diplômés, donc qui ont aussi une capacité à choisir et à faire un petit peu pression sur l'employeur en disant bah, « moi, je ne veux pas là si ça ne rencontre pas aussi ma recherche de sens ». Il faut quand même rappeler que la crise Covid, elle a pas mal fragilisé les jeunes, et notamment les jeunes les plus précaires, qui, eux, ne sont pas tellement en position de choix, en fait, hein, en termes de travail, et pour qui l'impact écologique n'est forcément pas le premier critère. Parce qu'il faut d'abord essayer d'avoir une forme de stabilité professionnelle, un accès au logement. Donc voilà, c'est là où je relativiserais. Ce n'est pas que le sens n'est pas important pour eux, mais c'est qu'ils sont moins en situation de pouvoir choisir.
Le réveil écologique n'appartient finalement qu'aux jeunes aisés, diplômés, qui ont le bagage culturel, qui leur permet effectivement d'avoir ce choix-là, d'avoir cette réflexion-là aussi.
Alors, tout dépend. Si vous parlez de la sensibilité écologique, non. Quasiment toutes les catégories de population.
Non, mais cette capacité en tout cas à renoncer.
Mais voilà, une capacité de pression finalement sur les entreprises en disant mais moi je ne rentrerai pas dans cette entreprise si ça ne m'intéresse pas. Et là on est dans un rapport de force en fait entre l'employé et l'employeur. Donc voilà, là sur le rapport de force il y a quand même des différences. Il y a aussi les questions de transport, d'habitat. Il y a toute une partie des jeunes qui ont du mal à accéder au logement, donc qui doivent aussi s'éloigner. Donc voilà, donc on peut. On peut pas non plus dire que toute la jeunesse aujourd'hui a la possibilité d'agir sur le marché de l'emploi. Ça serait un petit peu exagéré.
Baptiste Heisele, membre du collectif pour un réveil écologique, s'il y a des fractures de ce type au sein même de la jeunesse, comment faire émerger ce combat?
C'est une question. Nous, à Pour un écologique, on est justement parti de ce constat-là que on était en position de force et on avait la chance de pouvoir faire ce chantage parce qu'on sortait des grandes écoles. On pouvait du coup choisir des métiers qui avaient du sens et surtout qui avaient un impact environnemental faible. C'est pour ça qu'on a dit on n'ira pas travailler pour des entreprises qui ne font pas sens et en fait qui ne sont pas à la hauteur de l'urgence écologique. On a commandité un sondage avant les présidentielles à Harris Interactive qui justement posait cette question aux jeunes. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à aller dans une entreprise qui ne prend pas en compte les enjeux environnementaux, et 2/3 des jeunes se disaient prêts. C'était un petit peu plus fort chez les actifs aisés, mais on retrouve aussi ça dans les classes populaires, donc 69% chez les actifs aisés et 63% chez les classes populaires. Donc peut-être qu'il y a des personnes, il y a des jeunes qui ont moins la possibilité de le faire, mais en tout cas, elles ont ce souhait qui est très fort.
Il y a une majorité cependant de mobilisation de la jeunesse. Je voudrais vous redonner la parole, Sandra Ouabian, parce qu'il y a une étude qui m'intéresse et dont vous êtes la co-auteure, qui s'intitule, qui est complètement dans ce qu'on est en train de se dire, « Environnement, les jeunes ont de fortes inquiétudes, mais leur comportement reste consumériste ». En quoi les comportements des jeunes restent consuméristes? Qu'est-ce qui ressort de cette étude?
Alors, en fait, suivant les générations, les actions dans lesquelles on va se mettre en mouvement par rapport à l'environnement ne sont pas du tout les mêmes. Et notamment, par exemple, les jeunes vont moins trier leurs déchets, aussi parce qu'ils ont des appartements plus petits, donc mécaniquement, bah, moins de poubelles, voilà, une vie un petit peu moins installée. Ils vont aussi plus acheter. Mais là aussi, on a un effet du cycle de vie, c'est-à-dire que ben, quand on a 25 ans, on n'a pas encore ses armoires pleines et sa maison pleine à craquer de milliers d'objets inutiles. Donc, on peut avoir aussi besoin de s'installer et de tout bêtement acheter des objets. Donc, et c'est vrai qu'ils sont dans un rapport à la consommation, en moyenne, hein, bien sûr, qui est un petit peu plus situé dans le plaisir, en fait, que la nécessité. Mais c'est aussi lié, finalement, à des questions de cycle de vie. Là où il y a peut-être du chemin à faire encore dans les pratiques, c'est notamment les pratiques liées au numérique, où là, même s'il y a une prise de conscience grandissante des impacts, les jeunes restent quand même les premiers consommateurs de toutes les offres numériques, à la fois en équipement, en usage, en volume d'usage, voilà. Également le rapport au déplacement en avion, où il y a une envie de découvrir le monde, et on peut aussi le comprendre. Donc là-dessus, les jeunes sont aussi, en moyenne, on va dire, un peu plus enclins à prendre l'avion. Là où ils sont très actifs et où ils sont en avance sur le reste de la population, c'est en fait sur les modes de transport, où ils sont beaucoup moins nombreux à prendre la voiture. C'est-à-dire qu'au même âge, chaque génération en fait, utilise moins la voiture. Et ils vont aller vers plus des types de mobilité douce, multiple, covoiturage. Là, ils sont toujours là en avance. Et également tout ce qui est en lien avec une distance avec la propriété. Donc, ils vont plus acheter d'occasion, ils vont plus échanger. Tout ça, c'est des choses qui sont rentrées. Et c'est quand même des vrais changements de rapport au monde. Parce qu'avant, il faut se rappeler qu'on n'offrait jamais un objet d'occasion, que l'occasion, c'était un peu perçu comme un peu sale. Peut-être qu'on allait avoir des problèmes d'hygiène. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plutôt valorisé dans les classes d'âge jeune. Mais c'est vrai que tout leur comportement, et bon, c'est aussi des êtres humains, hein, comme tout le monde, tout leur comportement ne peuvent pas non plus être complètement cohérents. Et ça s'explique aussi parce qu'en fait, ils sont dans une recherche d'efficacité. Et donc, ils mettent à la fois leurs efforts personnels sur ce qui compte le plus. Et c'est vrai que prendre sa voiture, ça a un impact très, très fort. Et aussi parce qu'ils sont en attente de changements qu'ils appellent systémiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne soit pas seulement les individus qui agissent, mais les entreprises, les pouvoirs publics, qui aient plus d'infrastructures de transport, que finalement, l'offre dans les magasins est changée. Bref, que tout ne repose pas sur la responsabilité de chacun.
Et du coup, il y a des changements, vous dites, mais aussi peut-être un manque d'implication. Et pour autant, il y a une grosse déconnexion quand même avec le monde politique. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Sandra Wayuyan, Baptiste Aizeleu?
Je suis d'accord avec ce constat. On se pose un peu la question, en fait, et ça rejoint du coup cette vision systémique. Si les jeunes voient, 20 pubs pour un fast-food par jour, et qu'après, du coup, ils voient un burger, enfin, à force de voir un burger gras dégoulinant, c'est sûr qu'avec les biais cognitifs, le gras, ça va nous attirer, et qu'après, on va craquer, ça peut sembler logique. Donc aussi, peut-être, on peut aussi repenser la question de la publicité, en fait, et de tout ce qui nous entoure, et en fait, de créer des nouveaux récits.
Mais est-ce que c'est pas un peu facile de dire finalement c'est pas notre responsabilité, c'est parce qu'on est tenté et que finalement c'est aux décideurs parce que bon, on sait qu'aussi les gestes citoyens sont à la base aussi peut-être de ce qui pourrait faire émerger ce réveil écologique que vous appelez.
En fait, les deux ne sont pas opposables, ils sont plutôt complémentaires. C'est-à-dire que on peut se dire effectivement les citoyens peuvent faire un effort. À quelle hauteur ? Il y a eu une étude de Carbon 4 qui parlait de 25% à beaucoup plus si les gens font des efforts héroïques. Mais il y a aussi en fait toute la société, ce que je parlais avant du coup des nouveaux horizons, essayer de proposer autre chose. Peut-être que le train de nuit pour aller à Nice dans 10 ans, ce sera le nouveau avion qui en ce moment est à 9 € pour aller à Budapest. Donc il faut essayer vraiment de créer ces nouveaux imaginaires pour proposer autre chose à la société, en particulier aussi à la jeunesse, qui a envie de s'engager sur ces questions-là.
Proposer autre chose, Emmanuel Ladan, vous, donc, je disais, votre entreprise adhère au French Business Climate Pledge, qui regroupe une centaine d'entreprises françaises, représentant 6 millions d'emplois sur le plan mondial, avec des engagements 73 millions d'euros, milliards d'euros même, qui devront être injectés d'ici à 2023 dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique et dans le déploiement d'autres technologies bas carbone. Concrètement, vous, qui êtes directeur général d'une entreprise, je le disais, qui propose des technologies biologiques pour la fin de vie des plastiques et des textiles, en quoi le fonctionnement de votre entreprise a changé pour devenir plus écologique dans le cadre de ce plan ?
En fait, la mission écologique, dans ce qu'on fait déjà à la base, puisque recycler des plastiques qui ne sont pas recyclés aujourd'hui ou des textiles qui ne sont pas recyclés aujourd'hui et leur donner une circularité presque infinie, c'est notre mission. Et donc, c'est par nature déjà une mission écologique. Là où on doit aller vite, c'est qu'il y a urgence pour la planète. Il y a trop de plastiques qui partent dans les mauvaises poubelles ou dans les océans, malheureusement, et qui ne sont du coup pas valorisés, qui terminent incinérés, qui terminent dans les décharges, ou malheureusement qui terminent dans l'océan. Et ça, c'est un vrai scandale. Donc, on a urgence à se développer, et on n'est pas les seuls. Il y a plein d'autres entreprises dans d'autres secteurs qui vont contribuer à faire une planète meilleure. Mais il faut qu'on puisse aller vite. Et moi, je voudrais revenir sur quelques idées qui ont été émises. Moi, quel que soit le niveau de qualification, aujourd'hui, je remarque quand même que j'ai du mal à embaucher. On n'est pas en plein emploi, mais on a quand même du mal à recruter. Et une fois qu'on a recruté les gens, ils sont extrêmement motivés. Mais c'est compliqué aujourd'hui de recruter en France. Il faut beaucoup d'efforts pour recruter. Donc voilà, il faut continuer à faire des efforts parce que j'entends ce qui a été dit, mais sincèrement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités pour des jeunes motivés, engagés, et qui ont envie de changer le monde.
Vous avez du mal à recruter alors que vous êtes dans une démarche environnementale et que finalement, alors, le cœur de notre débat, c'est de dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de futurs professionnels tournent le dos aux entreprises qui ne font pas le jeu de la transition écologique.
Mais il y a des questions de formation aussi.
Alors, il y a peut-être des questions de qualification, etc. Mais bon, globalement, on peut se rendre compte que, et je ne suis pas le seul à le dire, ce n'est pas facile de trouver certains métiers aujourd'hui, certaines qualifications de technicien supérieur, etc. C'est compliqué d'embaucher, et donc il faut continuer à faire des efforts, et je pense, ben, les deux personnes qui sont autour de la table vont probablement pas me contredire, je pense que quand on a une mission, quand on est une entreprise à mission qui contribue à faire une planète meilleure, on devrait plus facilement attirer des talents et attirer des jeunes diplômés qui veulent plus justement aller faire du travail dans des groupes qui font du greenwashing ou qui polluent, mais qui ont envie de rejoindre ces initiatives qui contribuent à une meilleure planète.
Il y a une fracture. Sandra Wabian, pourquoi ?
Non, mais là, je pense que la variable qui manque dans ce qu'on vient d'entendre, c'est la question de la formation et des compétences, c'est-à-dire dans quelle mesure on arrive à accompagner cette transition écologique sur le plan des formations et des compétences qu'on propose. Et probablement qu'on a un petit train de retard. Donc, ce n'est pas que les jeunes... quand ce monsieur a des difficultés à recruter, c'est parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui sont formés, en fait, sur les métiers dont il a besoin. Donc, ça peut être en tout cas une des raisons. Et juste, je voulais juste ajouter un point, c'était sur cette question de est-ce qu'il faut... finalement, tout à l'heure, vous disiez que il y avait une campagne qui avait été faite pour essayer de sensibiliser, pour que les gens passent à l'acte. Et je pense qu'il faut aussi un petit peu peut-être aller sur d'autres types de leviers que la sensibilité écologique pour faire bouger les gens. Parce qu'il y a, aussi d'autres leviers très puissants, comme celui de la santé, par exemple, qui peut tout à fait faire changer les pratiques sans pour autant que les gens le fassent pour la planète. Ou des leviers économiques, donc notamment dans tout ce qui est rénovation énergétique, etc. Donc, il faut peut-être un petit peu déconnecter cette question de la culpabilité écologique ou bien de la conscience écologique avec la transition écologique. On peut tout à fait accompagner une société pour qu'elle se transforme sans appuyer forcément sur le levier de la sensibilité écologique.
On la lit parce que c'est là que se trouve l'appel aujourd'hui de la jeunesse.
Oui, bien sûr, mais... Et c'est normal, et d'une certaine manière, c'est une forme d'énergie aussi, peut-être de nouvel horizon, comme vous disiez tout à l'heure, qui permet aussi de faire consensus dans la société. Donc on peut aussi voir les choses positivement dans le fait qu'on parle beaucoup d'une société qui est fragmentée, etc. Ben là, il y a quand même quelque chose qui traverse les générations et qui mobilise. Donc c'est quand même quelque chose de positif. Après, il peut y avoir un décalage, et c'est normal, c'est pas leur travail non plus à ces jeunes, entre l'objectif et comment on fait pour y arriver.
Est-ce que ce réveil écologique, Baptiste Aizeleux, peut se retrouver face à une impasse? On évoque le manque de formation notamment. Est-ce que ça ne peut rester qu'idéaliste, possiblement?
Nous, en tout cas, on pousse... On a construit un plaidoyer pour les présidentielles, un plaidoyer politique qu'on a structuré autour de différentes mesures qu'on a poussées. Donc, il y a des... mesures sur le climat, des mesures sur le reporting climatique des entreprises aussi, donc faire qu'on fasse un bilan carbone sur toutes les émissions et qu'on prenne tout en compte. Et sur la question de la formation, justement, on poussait à avoir un observatoire des métiers verts, mais qui soit vraiment transversal et qui puisse en fait structurer tout au long de la chaîne, donc que ça commence au collège jusqu'à l'enseignement supérieur, où on puisse en fait anticiper les mutations dont on va avoir besoin. Donc on parlait de la rénovation thermique, c'est un secteur qui va avoir besoin d'énormément de gens. Et pour l'instant, on ne fait pas envie, on ne donne pas envie aux jeunes d'aller dans ces métiers qui sont effectivement des métiers peut-être plus durs, des métiers manuels. Mais en tout cas, on a un vrai besoin d'anticiper les compétences et les formations dont on va avoir besoin et aussi de les rendre désirables.
Vous évoquiez la mobilisation du milieu politique. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu? Est-ce que vous pensez que sans être entendu, ce réveil écologique peut se concrétiser?
Je pense qu'on est entendu. En tout cas, on fait tout pour être entendu. On rencontre le personnel politique. On diffuse aussi sur les réseaux sociaux. On a organisé une conférence justement sur les métiers de la transition. Faut aussi que l'administration française qui est en charge de ces questions, si elle est correctement formée et si en tout cas elle comprend les enjeux et qu'on lui donne les moyens, elle pourra aussi en partie faire sa part. Et du coup, on pousse aussi pour ça. Avec le point écologique, on a aussi une partie sur la fonction publique, où du coup, on a poussé un questionnaire pour mesurer l'engagement des différentes institutions publiques, mais aussi du coup pour vraiment essayer de faire infuser et de leur montrer, il faut aller plus loin, voilà ce que nous, on propose, et voilà, d'échanger pour dire l'urgence climatique, elle est là. Nous, on pense, construisons ensemble, mais on pense qu'il faut proposer ça. Mmh. Et allons-y, quoi. Donc c'est...
Parce que parfois, dans la mobilisation de la jeunesse, justement, à l'égard du climat, il y a une sorte de désenchantement total de la politique et de rejet de la politique. Mmh. Comment y arriver, justement, en rejetant cette politique, en rejetant ce futur monde de l'entreprise?
Je pense que c'est une question un peu de... Enfin, en tout cas, nous, on est vraiment sur ce créneau-là, de se dire, de toute façon, si on sort tous du système, ça ne va pas marcher. Par contre... On a des exigences qu'on explique clairement, et c'est pour ça que le manifeste était là. On estime que le système économique ne répondait pas à ces questions. Et du coup, comment faire? Construisons ensemble, et ça va beaucoup passer par des questions de gouvernance, de mettons-nous autour de la table. Nous, nos exigences, ce sont ça. Nos exigences, ce sont finalement ce que disent les scientifiques, les limites planétaires, dont on a déjà atteint 6 limites, les accords de Paris, et essayons de construire un monde bas carbone, un monde à faible empreinte environnementale. Donc voilà.
Emmanuel Ladan, vous qui êtes directeur général d'une entreprise biologique, écologique, et que vous travaillez, vous le disiez, avec beaucoup de jeunes, justement, eux, quelle lecture ont-ils de l'action politique et comment voient-ils l'aboutissement de leur combat?
L'action politique, elle est à travers évidemment tout l'aspect réglementaire, mais aussi les investissements qui sont faits à ces nouvelles filières qui sont en train de se créer. Mais à la fin du fin, c'est quand même, je pense, j'en suis convaincu, c'est principalement par les entreprises innovantes qu'on développe sur le territoire national qu'on va pouvoir, et international qu'on va pouvoir transformer. Et je pense qu'il n'y a pas de rejet de l'entreprise. Il faut un cadre politique, il faut un cadre réglementaire, il faut des aides aux entreprises innovantes, mais c'est principalement par l'emploi, par la création d'entreprises innovantes qu'on va pouvoir transformer la planète et mieux répondre aux exigences des jeunes. Qui sont tout à fait légitimes.
Vous croyez à un inversement total du modèle économique possible?
Moi, je crois très clairement qu'on va arriver à une société où le greenwashing est complètement rejeté, où il faut véritablement des transformations de fond. On a parlé de transport, on a parlé de transformation du logement, de transformation de manière de consommation, du recyclage. Ces filières-là sont en train d'émerger et vont véritablement changer nos manières de consommer.
Eh bien, on va terminer par ce message d'espoir. Greenwashing, on rappelle, c'est l'idée de donner l'illusion, finalement, d'utiliser de vraies pratiques environnementales à des fins, finalement, marketing. Merci beaucoup, Emmanuel Ladan, directeur général de l'entreprise Carbios, qui propose des technologies biologiques pour la fin de vie des plastiques et des textiles. Merci, Sandra Wabian, directrice générale du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et merci, Baptiste Heisele, membre du collectif pour un réveil écologique, diplômé de l'École nationale supérieure des mines d'Albitre, qui vous travaille comme consultant dans un cabinet de développement durable. Merci à Florence Pons à la préparation de ce débat, Jean-Philippe Thury à la réalisation. Je vous invite évidemment à consulter notre site internet www.rfi.fr pour réécouter ce débat, pour le podcaster. Et d'ici là, restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans 30 secondes, c'était RFI Soir.